France Culture. Loire. Xavier Mauduit.
Judéo-obsession, c'est l'obsession des Juifs pour les Juifs, mais aussi celle de tout le monde pour les Juifs. Guillaume Erner. Et fou d'histoire. Ah, nous avons tous en tête ce que dit Victor Pivert à son chauffeur dans sa grosse déesse noire là. Vous êtes juif ? Comment Salomon, vous êtes juif ? Écoutez, ça ne fait rien, je vous garde quand même dans les aventures de Rabbi Jacob. Le film de Gérard Houry, Louis de Funès et Henri Guibet nous offrent une réplique désormais patrimoniale qui s'inscrit dans l'histoire de l'antisémitisme et peut-être aussi dans celle de l'humour juif.
Alors ça, c'est vraiment de l'humour juif. Marie et moi, on adore. Hein.
Nous sommes fans de Louis de Funès.
Enfin, Louis de Funès n'était pas juif, maman.
Mais si, Rabbi Jacob.
Oh. Ah oui, oui.
Petite gêne. Qu'est-ce qu'on a fait, au bon Dieu, hein, le film de Philippe Chauvron en 2014, avec l'évocation de cette présence, Guillaume Erner, bonjour.
Bonjour Xavier.
Des Juifs au cinéma. C'est vrai, je dis Rabbi Jacob, qu'est-ce qu'on a fait, au bon Dieu, dans la culture populaire. C'est un personnage clé, hein, la figure du Juif.
Le Juif qui ne se donne pas nécessairement à voir comme tel. Et c'est d'ailleurs l'une des questions et l'un des problèmes avec le Juif, c'est que pendant toute une longue période, on a dit qu'il se distinguait des autres. Dans les années 1940, pendant l'occupation, il y avait des expositions pour montrer à quoi ressemblait le juif. Et puis ensuite, on a considéré qu'il ne ressemblait plus à personne, ou plus exactement, il ressemblait à tout le monde. C'était quelqu'un comme vous et moi, Xavier, le juif. Et c'était particulièrement compliqué, parce que s'il ressemble à tout le monde, qui est-il ? Comment le reconnaître ?
C'est toute la question, et d'ailleurs, vous l'évoquez hein, dans Judéo-obsession, Guillaume Erner. C'est vraiment savoir qui est juif, ça, c'est une chose, c'est une réflexion qu'on peut se poser, mais quand on est soi-même juif, la question c'est de se dire, est-ce que je suis juif ?
Et justement, en fait, cet apprentissage, je l'ai fait de manière progressive, mais il m'a fallu quand même du temps pour réaliser que tous mes petits camarades n'avaient pas la même enfance que moi, n'avaient pas les mêmes histoires que leurs parents leur racontaient le soir, qu'il n'était pas, par exemple, question de déportation, qu'il n'était pas forcément question d'enfants cachés. Et puis, un jour, j'ai eu une blessure narcissique importante. J'ai dû comprendre que Notre-Dame ne m'appartenait pas, que la synagogue à laquelle nous n'allions pas, d'ailleurs, parce que mes parents étaient des juifs très incroyants, et bien que Notre-Dame n'était pas une synagogue et que moi, j'avais droit à des édifices qui étaient plus petits, que je trouvais beaucoup plus laid, il faut que je le dise, et puis, vous savez, sans les peintures, sans les vitraux. Et ça, c'est le début d'une réflexion que je vais essayer d'entamer, de continuer le plus longtemps possible sur ce qu'est l'identité juive.
Judéo-obsession. Vous le publiez chez Flammarion, cet ouvrage, Guillaume Erner, et au moment d'écrire, vous savez, il y a toujours cette difficulté de savoir s'il faut mettre une majuscule ou une minuscule au mot juif, selon s'il s'agit d'un peuple ou d'une religion. C'est intéressant cela, parce que ici, on touche du doigt la difficulté de la définition.
Oui, et c'est d'ailleurs toute l'histoire des juifs, puisqu'en fait, les juifs ont été successivement, et j'espère que je ne me tromperai pas dans la chronologie, est tout d'abord un peuple, ensuite une civilisation, une religion, puis une religion minoritaire, une diaspora, un principe diasporique qui s'opposait au principe national, puis une race. Et alors aujourd'hui, où on pourrait se dire que les choses sont simples, en un sens, elles sont beaucoup plus compliquées, puisqu'on a à la fois des juifs diasporiques, et puis des juifs en Israël. Il n'y a pas que des juifs en Israël, mais bien sûr, c'est un pays majoritairement juif. Donc, ces Israéliens, c'est une nationalité. La diaspora, elle a considérablement changé. D'abord parce que, hélas, ce qu'on appelait les juiveries d'Europe de l'Est ont été massacrées et il n'en reste plus que de manière parfaitement parcellaire. Il ne reste plus que 750 000 juifs en Europe, c'est-à-dire pas grand-chose. Les deux grands foyers juifs sont Israël et les États-Unis. Et puis l'autre aspect, et je pense qu'on n'insiste pas assez là-dessus, alors que c'est quelque chose d'inouï, c'est la disparition des juifs du monde arabe. Il y avait 1 million de juifs dans une civilisation bien entendu antérieure à l'islam, et il n'en reste plus aucun. Et je pense que ces juifs seraient restés dans ce monde arabe si on ne les avait pas chassés au moment de la décolonisation. Et ça, c'est quasiment un drame silencieux, et je pense qu'il faut leur rendre hommage.
Oui, parce que dans Judée Obsession, il y a l'évidence de l'histoire. L'histoire, elle suinte sans cesse et on le ressent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser être juif aujourd'hui sans prendre en compte cette histoire millénaire.
Et oui, c'est ce que dit d'ailleurs Philip Roth. Il dit que les juifs sont à l'histoire ce que la neige est aux Esquimaux. Et c'est l'une des phrases, à mon avis, les plus fines sur la question historique, parce qu'on voit que ce groupe, quelle que soit la manière dont on le définit, parce qu'on voit bien que le définir, c'est très compliqué. Est-ce que les Juifs incarnent une identité, une religion, une culture? On voit bien que c'est cela et pas tout à fait tout cela à la fois. Eh bien, ces Juifs, ils représentent la totalité de l'histoire occidentale, puisqu'ils sont à l'origine du monothéisme. Ils donnent naissance au christianisme, puis évidemment à l'islam. Ils sont les minoritaires principaux dans la société occidentale, et donc ils vont donner lieu à différentes manières de vivre ensemble. C'est ce qu'on appelle les différents régimes d'altérité au Moyen-Âge. Ils vont être également ces grains de sable qui grippent la mécanique des nationalités et des constructions étatiques au XVIIIe et au XIXe siècle. Et puis enfin, avec la Shoah, ils vont être le cœur de l'intention hitlérienne avec la plus terrible déflagration historique au XXe siècle. Et donc, pour toutes ces raisons-là, si vous voulez, les Juifs obsèdent l'histoire occidentale.
Ah oui, ils sont omniprésents dans cette histoire-là. Et puis, il y a dans cette longue histoire ces moments particuliers. Être juif, c'est bien souvent en écho à ce que vous venez de dire, Guillaume Herner, selon le regard des autres. À un moment donné, on donne une définition d'être juif. On sait bien que les nazis ont donné une définition généalogique d'être juif du côté de la mère, le nombre de quartiers vers lesquels on doit remonter pour savoir, les quatre grands-parents, etc. Avec ce moment particulier de la Seconde Guerre mondiale où, pour certaines personnes, bah, d'un seul coup, c'était la révélation. Mais je suis juif, je ne le savais pas.
Et oui, c'est-à-dire que là aussi, c'est une vraie question, parce que est-ce que l'on est juif par autodésignation, donc on s'assume en tant que juif? Est-ce qu'on l'est par hétérodésignation? C'est ce que dit par exemple Sartre. Un juif est quelqu'un que les autres considèrent comme juif. On voit bien que ces deux définitions, elles sont en réalité profondément complémentaires. Et puis, on voit aussi que cette identité juive, si vous voulez, elle a subi, à l'époque contemporaine, une évolution extrêmement curieuse. Donc, les Juifs ont été, durant deux millénaires, les deux millénaires de coexistence avec la chrétienté, une civilisation marginale. Ils étaient des minoritaires et ils étaient des victimes. Et puis, soudainement, les Juifs sont devenus, au contraire, des dominants parmi les dominants. C'est-à-dire que jadis, les Juifs étaient des non-blancs, puisqu'on considérait qu'ils étaient une race à part. Et ils n'étaient même pas forcément ni des hommes ni des femmes, puisque au Moyen-Âge, on considérait qu'ils étaient hermaphrodites, on considérait qu'ils pouvaient avoir des pertes menstruelles. Bref, on ne savait pas très bien si c'était des hommes et des femmes. En réalité, c'était des diables. Et puis, soudainement, ils ont incarné la domination par excellence. Et ça, pour moi, ça a été un véritable choc, puisque je suis né dans une famille qui était une famille juive de gauche, très à gauche, voire même des juifs staliniens. Et ces gens-là avaient véritablement la conscience d'être minoritaires. Et puis, je me suis réveillé, ces gens-là, mes parents, mes grands-parents, hélas, sont morts, et je me suis retrouvé, au contraire, à incarner l'autre côté de la bourgeoisie, c'est-à-dire au contraire un mode de domination, un mode colonialiste, puisque le mot juif est devenu synonyme de sioniste, lequel est devenu synonyme de génocidaire. Et c'est en fait ce tournis, cette évolution que j'ai voulu décrire dans mon livre pour montrer à quel point, d'une part, évidemment, je m'élevais contre cette évolution, et puis à quel point celle-ci m'avait surpris.
Oui, parce qu'un objet tel qu'un ouvrage qui parle de soi, mais qui porte un regard aussi extérieur, parce que Guillaume Herner, vous animez les matins sur France Culture, bien sûr, mais il y a aussi ce que vous êtes, c'est-à-dire votre formation, c'est la sociologie. Il y a l'analyse de la chose, et ce va-et-vient toujours fait que l'objet produit doit être contextualisé. Et nous sommes à un moment où vous faites paraître un livre sur l'obsession autour des Juifs. Donc on se demande pourquoi là, aujourd'hui?
Alors, c'est effectivement un essai, non pas d'égo-histoire, je ne suis pas historien comme vous, Xavier, et de sociologie, j'ai enseigné la sociologie, j'ai fait une thèse en sociaux, donc un essai d'égo-sociologie. Il s'est imposé pour moi d'évidence après le 7 octobre, puisque je voyais bien que parmi les mails d'auditeurs, je parle de gentils auditeurs, pas des méchants, les méchants on les oublie, mais de gentils auditeurs, on me disait, mais en tant que juif, comment pouvez-vous être objectif, être honnête dans votre manière d'évoquer ce conflit israélo-palestinien? Et on a eu une forme de devoir de vérité. Je pense que maintenant, il faut dire qui on est quand on prend le micro. Et il faut dire, par exemple, que pour moi, ces vieux juifs qui recevaient des roquettes ou qui échappaient aux roquettes en Israël, eh bien, ils n'étaient pas des créatures abstraites. C'était mon oncle, c'était ma famille. Et dans le même temps, moi, je suis allé à Gaza. J'y suis allé il y a bien longtemps, puisque maintenant, la chose est impossible. Et il y a quelques mois, elle était déjà compliquée. Mais j'y suis allé et je n'ai jamais oublié les souffrances des Gazaouis. À chaque fois que j'allais voir ma famille, pas très loin de Gaza d'ailleurs, parce que j'avais de la famille à Ashdod, donc à 25 kilomètres, mettons, de la bande de Gaza. Je leur disais, mais qu'est-ce que vous allez faire avec Gaza? Et j'ai bien vu qu'ils oubliaient l'existence de Gaza. Et donc, ce 7 octobre, je me suis dit, voilà, il faut que je prenne la plume et il faut que je pose mon identité pour que je réussisse donc à comprendre ce qui avait changé et ce qui pouvait être fait pour donner à entendre des choses qui ne soient pas seulement de la binarité du simplisme, c'est-à-dire qu'on pouvait être juif sans être évidemment, disons, ignorant des souffrances des Gazaouis, qu'on pouvait aussi essayer de complexifier cette histoire, parce que cette histoire du Proche-Orient est tout sauf simple.
Ouais, c'est vraiment compliqué, on le sent bien. Et puis c'est vraiment aussi la volonté, Guillaume, de vous inviter dans le cours de l'histoire, parce que au-delà que c'est intéressant d'explorer une pensée autour d'un univers judéo-obsession. Pourquoi? Mais on se dit après, alors Guillaume Erner, il a les matins, il va venir dans le cours de l'histoire. Mais ça semblait très important aussi de savoir comment, quand on est journaliste, à traiter des actualités qui nous concerne aussi par notre univers, comment on se positionne. Et c'est là aussi, il faut rappeler que le journalisme, c'est un métier et qu'on arrive à se détacher de ces objets d'étude, comme en histoire, les historiens du nazisme ne sont pas nazis.
On arrive à se détacher des objets d'étude, on arrive aussi à supporter le désespoir du monde avec le micro, parce qu'il y a cet effet qui fait qu'on parle des malheurs du monde et qu'on est obligé de prendre du recul par rapport à ces malheurs-là. Je me suis toujours dit que les journalistes étaient des gens mélancoliques qui chassaient avec le micro ou la plume leur intériorité, parce que c'est une manière pour eux de penser à autre chose. Et puis un jour, vous êtes rattrapé par le réel, parce que donc effectivement, ces territoires, les territoires occupés, les territoires israéliens, moi je les connais bien et j'y suis allé de nombreuses fois. Et je me suis dit que il n'était plus possible d'être, non pas neutre, parce que la neutralité c'est compliqué, mais d'être, indifférent avec ce qui se passait là-bas. Donc on s'est attaché au matin à être pluraliste, toujours pluraliste. On a eu, par exemple, Abou Jamas, autrement dit, un journaliste palestinien à la bande de Gaza. On a été les seuls, je crois, à le prendre régulièrement. On a eu également des mots du Liban, mais il y avait aussi d'autres discours à entendre, et c'est tout cela qui m'a conduit à écrire ce livre.
Mais, et c'est vraiment cela. Moi, je me suis dit, il n'y a aucun souci, parce que les personnes qui écoutent les matins, aiment bien les matins, sinon ils n'écouteraient pas les matins, et tout le monde ne peut être qu'intéressé de savoir dans quel univers évolue Guillaume Erner. Avec cette question complexe de l'actualité, Guillaume, je vous propose, dans cette judéo-obsession, de voyager. On va visiter quelques lieux. Le premier lieu que je vous propose, c'est tout simplement Orléans.
Alors vous, madame, vous entendez parler de cette affaire, de quelle façon?
Eh bien, j'étais à mon bureau et une de mes collègues, une jeune femme d'une vingtaine d'années, me fait voir une robe qu'elle venait d'acheter. Elle me dit, vous savez, je suis pas prêt de retourner en acheter d'autres. Elle dit, vous ne connaissez pas l'histoire de la traite des Blanches? La traite des Blanches, j'étais complètement éberlué, j'avais pas entendu parler de ces choses-là. La traite des Blanches, mais quelle traite des Blanches? Et où? Elle me dit, dans les magasins. Vous ne savez pas ça? Chez Dorfé que ça se passe. Ah, Dorfé. Et puis au Petit Bénéfice. Petit Bénéfice. Et puis elle me dit, il y a d'autres magasins. Chez Chélage, chez Félix, le marchand de chaussures. On a trouvé des femmes endormies. Oh, j'ai dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Dorfé, moi je connais très bien les personnes qui tiennent Dorfé. Monsieur Litch et Madame Litch sont de mes amis. Et ces histoires-là ne tiennent pas debout parce qu'ils sont incapables de faire une malhonnêteté. Elle me dit, ben pourtant, vous savez, ça se passe dans beaucoup de magasins. Je sais si vous connaissez les noms de ces personnes-là. Elle me dit, non. Je connais pas leur nom, mais ce que je sais, ce sont des magasins juifs. Magasins juifs, alors maintenant je suis au courant de la paix. Je voulais vous le faire dire, parce que les noms de magasins que vous m'avez cités, je savais qu'ils étaient tenus par des Israélites. Et toute cette histoire, c'est une cabale antisémite.
L'émission Affaires classées en 1969 à propos de la rumeur d'Orléans, avec cette histoire dans les magasins de vêtements de disparition. 1969, Guillaume, question vêtements, vous étiez plutôt barboteuse, hein, vous avez un
oui,
an.
Non, j'étais encore petit, mais c'est une histoire essentielle pour moi, parce que mes parents tenaient un magasin de prêt-à-porter où ils vendaient donc à... Ils vendaient en gros, comme on dit, donc ils vendaient des manteaux, des vestes, des robes à des petits commerçants, dont ces commerçants orléanais. Et je me suis rendu compte un jour, parce que je passais beaucoup de temps dans le magasin de mes parents, je me suis rendu compte un jour que mon père n'était pas à l'aise avec l'un de ses clients qui venait d'Orléans, et j'ai compris par la suite que s'il n'était pas à l'aise, c'est parce que ce commerçant avait vécu quelque chose de terrible, c'est-à-dire ce qu'on vient d'entendre, une accusation, une rumeur calomnieuse qui considérait que les Juifs là-bas se livraient à une traite des Blanches. Et c'est allé très loin, puisque ils ont été obligés un jour de se réfugier dans la cave pour échapper à un lynchage. Et ça, ça a été quelque chose de très fondateur dans ma mémoire, parce que je me suis dit, mais comment aujourd'hui peut-on accuser quelqu'un de choses à ce point fausses alors qu'il est juif? C'était, si vous voulez, mon premier contact avec ce qu'en sociologie on appelle des accusations chimériques, puisqu'elles ne reposent sur rien, et plus celles-ci étaient démenties par les autorités, plus de nombreuses personnes à Orléans y croyaient, y adhéraient. Alors maintenant, on est très familier avec les fake news, mais à l'époque, on l'était infiniment moins. Et c'est aussi un épisode extrêmement important, parce qu'il a donné naissance à l'un des premiers ouvrages de sociologie que j'ai lu, La rumeur d'Orléans d'Edgar Morin. Autrement dit, quelqu'un qui prend une rumeur, un fait en apparence irrationnel et qui lui confère une logique. Et pour moi, la sociologie, ça a toujours été ça, c'est rendre explicite, rendre rationnel un phénomène. Non pas parce que le réel est rationnel, parce que ça serait un postulat difficile à tenir, mais parce que la seule manière de parler d'un fait, la seule manière de le comprendre, c'est de le rendre rationnel. Et c'est en commençant ces lectures avec Morin, puis avec d'autres, comme Max Weber, par exemple, que j'ai réussi à comprendre qu'on pouvait faire de la sociologie de l'antisémitisme, et que j'ai décidé de consacrer ma thèse à cette sociologie de l'antisémitisme.
Votre thèse, c'est analyse critique du modèle du bouc émissaire en sociologie de l'antisémitisme. C'est un vrai titre de thèse.
C'est une thèse.
Avec quand même ce mot bouc émissaire.
C'est un très bon livre si vous souffrez d'insomnie. Alors là, c'est radical. Vous en lisez quelques pages de ma thèse et vous tombez net raide.
Mais non, faut pas dire ça, parce que cette thèse, c'est pour ça que c'est toujours intéressant, hein, de voir comment tous nos travaux sont reliés au fil du temps, et que c'est très rare que l'on passe vraiment du coq à l'âne, parce que la pensée, elle se construit au fur et à mesure. Il y a une réelle cohérence dans votre réflexion, Guillaume Erner, parce que on voit que au fil du temps, vous réfléchissez toujours. Je donne des titres d'ouvrages, hein, mais expliquer l'antisémitisme, la société des victimes, aujourd'hui Judéo-obsession, et puis donc cette thèse sur le bouc émissaire, c'est le bouc émissaire, qui est ce fil conducteur, hein, qui nous conduit.
Oui, bien sûr. La notion de victime, qui est aujourd'hui, d'ailleurs, on le voit, hein, Xavier, centrale dans l'actualité, de Gisèle Pélicot à la question des Gazaouis. Donc effectivement, ça a toujours été mon obsession pour les victimes, essayer de comprendre pourquoi la compassion était devenue un élément central dans notre société. Cette thèse, je l'ai mise de côté tout simplement parce que lorsque je l'ai terminée, on m'a dit « Ouh là là, mais l'antisémitisme, ça intéresse personne. » Alors vous savez que quand vous voulez une place à la fac, il faut publier. Alors je me suis dit « Mais mince, si ça n'intéresse personne, je n'arriverai jamais à le publier. » Et on m'a dit « Mais sinon, tu fais quoi ?» Alors à l'époque, je bossais aussi dans la mode, je bossais dans le schmates, comme on dit en yiddish, je bossais dans une entreprise du sentier. Alors on m'a dit, bah, t'as qu'à faire de la sociologie de la mode, ça c'est bien la sociologie de la mode. Et j'ai écrit un ouvrage de sociologie de la mode, j'ai enseigné la sociologie de la mode, et même, Xavier, la sociologie of fashion, pour le dire selon le titre du cours à Sciences Po que j'enseignais. Mais effectivement, en écrivant Judéo-Obsession, j'ai repris cette thèse et j'ai repris ce que j'y disais sur la genèse de l'antisémitisme.
Et au moment d'étudier l'antisémitisme et au moment de rédiger votre thèse, vous avez bénéficié, Guillaume Herner, de toutes ces lectures, vous l'avez dit, notamment celle de Léon Poliakov.
Si vous voulez, la définition que j'ai mis en exergue à mon livre, la définition du juif que j'ai trouvée dans un des plus réputés dictionnaires théologiques du XVe siècle, et qui est le suivant: Judeum esse, es delictum, non tamen punibile per Christianam. Ce qui veut dire, être juif est un délit, qui cependant n'est pas punissable par le chrétien. Et je crois que vous avez là l'essentiel de la position du juif médiéval. C'est-à-dire, d'une part, que le simple fait d'être juif est un délit. C'est une existence hasardeuse, c'est un régime avilissant, et ce sont les persécutions, et tout ce dont on a beaucoup parlé, non sans raison, bien entendu. Mais il y a cet autre aspect paradoxal, que ce délit d'être juif n'est pas punissable par le chrétien. Or, qui peut le plus peut le moins. Et dans le fait, ça donnait aux juifs la possibilité d'exercer légalement des métiers légalement interdits aux chrétiens de ce temps, dont certains pouvaient être profitables, tel le prêt d'argent à la petite semaine.
En 1967, l'historien Léon Poliakov, auteur d'une histoire de l'antisémitisme, le premier volume c'était en 1955, il y en a eu d'autres, avec cette définition de ce qu'est un juif, mais bien sûr, historien ou sociologue de l'antisémitisme est confronté à ce problème de définition.
J'aimais énormément hein, Léon Poliakov, c'était une sorte d'homme malicieux, un peu un banlieusard de l'humanité, on allait le voir à Massy-Palaiseau, il nous recevait, il y avait Germaine, sa femme, on prenait du il avait une manière, vous savez, pas du tout mandarinale. Brodel lui avait dit « Tant que vous bosserez sur l'antisémitisme, vous ne ferez pas carrière, Poliakov. » Il faut aussi se souvenir de ça, à quel point ces questions donc, d'histoire juive, d'histoire de l'antisémitisme ont été marginalisées et invisibilisées dans l'université française. Et puis, dans ce qu'il dit, il y a quelque chose d'essentiel sur lequel j'ai beaucoup travaillé dans ma thèse. C'est en fait la position augustinienne. Parce que, si vous voulez, la question juive est un problème terrible pour le christianisme. Les chrétiens ont besoin des juifs puisque les juifs sont les vrais témoins de la passion du Christ et puis parce que le Christ est juif. C'est une religion qui s'est édifiée sur le souvenir d'un juif mort. Mais la position augustinienne, finalement, elle résout en quelque sorte l'équation. Elle dit que les juifs sont indispensables et donc qu'ils ne doivent pas être éliminés, mais que leur vie ne doit pas être trop douce car ils ont gommé le Verus Israël, autrement dit la chrétienté, et donc ils doivent payer le prix de leur incapacité à reconnaître la véritable Église. Et c'est finalement sur cet entre-deux qui est un véritable double bind, une injonction contraire, donc à la fois conserver les Juifs et les opprimer un peu, que ce régime d'altérité, ce premier régime d'altérité au Moyen-Âge va se construire.
Et il se superpose, hein, ces régimes d'altérité. C'est un millefeuille géant, c'est-à-dire que ce que l'on va trouver au Moyen-Âge traverse le temps, se transforme, se modifie, s'adapte. Mais c'est ça qui est fascinant dans l'histoire de l'antisémitisme.
Oui, c'est-à-dire que si vous voulez, cette solution est une solution instable. C'est une solution instable parce que elle va être mouvementée au gré des différentes réformes théologiques. Et dans ma thèse, j'ai particulièrement étudié un moment, le moment du concile de Latran IV, un concile extrêmement important pour la chrétienté qui se déroule en 1215 et qui va à la fois modifier l'existence des minorités, mais aussi obligé à redéfinir un certain nombre de dogmes, de piliers de la religion chrétienne, et notamment la transsubstantiation de la matière, c'est-à-dire la réelle présence du Christ dans l'hostie. Et à ce moment-là, eh bien, les Juifs deviennent les témoins de cette Eucharistie, mais ils ne le deviennent pas comme ils auraient pu l'être. Ils le deviennent parce que eux, les Juifs étant le principe opposé à la chrétienté, ils vont nier cette présence du Christ dans l'hostie en les profanant. Et ce sont les premières rumeurs calomniatrices dirigées contre les Juifs. C'est en fait, si vous voulez, l'anti-judaïsme, parce qu'on ne parle pas d'antisémitisme encore à l'époque, c'est l'anti-judaïsme qui va devenir triomphant et qui va être accompagné d'une série d'expulsions de Juifs, expulsions de France, expulsions d'Angleterre, si bien qu'à un moment, eh bien, il n'y aura quasiment plus de Juifs dans ces différents royaumes où ils seront poussés à côté, Xavier.
Avec ce travail que vous réalisez, que tous ceux qui ont fait une thèse connaissent, c'est-à-dire énormément de lectures, et dans votre cas, Guillaume Herner, la lecture, il suffisait de tendre le bras, les livres étaient là.
Oui, alors j'ai eu une chance inouïe. D'abord, il faut rappeler aux plus jeunes, notamment à ceux qui font leur thèse, qu'ils ont eu une chance incroyable. C'est qu'aujourd'hui, j'imagine que trouver les livres ne pose pas véritablement de problème avec les éditions numériques. Moi, vous, je crois, Xavier...
Pareil.
Il fallait qu'on fasse des tours de main incroyables. Moi, je suis allé faire des tonnes de photocopies dans des bibliothèques à droite et à gauche. Mais justement, j'avais une chance peu croyable, c'est qu'en fait mon père, qui était donc commerçant, qui rêvait d'être journaliste, a accumulé toute sa vie une somme de livres particulièrement impressionnantes. Vous savez, des livres non coupés, des livres qu'il n'avait pas lus. J'ai aussi un peu envie de dire des livres qu'il ne pouvait pas forcément lire, parce que bon, il y avait des livres un peu compliqués. C'est dans cette bibliothèque que j'ai découvert Popper, la critique de l'historicisme, Werner Sombart, Max Weber, donc les sociologues allemands principalement, qui ont été très importants dans ma formation intellectuelle. Et mon père avait un rapport très particulier aux livres. Ça a été un enfant caché, et comme tout le monde n'a pas la chance d'être pertinent dans ses choix, sa famille, mes grands-parents, avaient décidé de se cacher à côté de Drancy, juste à côté du camp, ce qui est quelque chose de complètement inouï. Et mon père, qui était jeune et qui était petit de taille, il avait 13 ans, eh bien, était le seul à s'enfuir du pavillon pour apporter des bouts de tissu à mes grands-parents qu'il cousait. Et c'est ainsi que la famille a vécu, plutôt survécu pendant la guerre, parce que lui, il sortait, il ramenait les bouts de tissu, on les transformait en vêtements, et puis il les ramenait, jusqu'au moment d'ailleurs où ça a été très compliqué, où une dame un jour lui a dit, ben non, on va pas te donner du tissu parce qu'on sait pas si vous allez survivre, alors comment on va faire pour récupérer le tissu si vous êtes raflé? Donc une existence évidemment épouvantable, et dans le même temps, mon père fouinait dans Paris, il portait pas l'étoile jaune, comme il était petit, il se disait qu'on n'allait pas la lui demander, et il achetait des bouquins. Il échangeait des bouquins, et j'imagine à la fois l'inquiétude de ma grand-mère, qui devait être folle d'inquiétude de ne pas le voir revenir, mais aussi ce que ça signifie, cet amour-là des livres, alors que finalement, on connaît peu de gens, on en connaît ailleurs qu'en France, d'ailleurs, des gens qui risquent leur vie pour un livre, mais voilà, c'était la vie de mon père sous l'occupation.
Il a accumulé tous ses livres, il les choisissait comment? Parce que, bien sûr, il n'avait pas fait d'études, c'est pour ça que Guillaume Herner nous dit que c'était difficile d'accès, c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas été lus pour certains, pas coupés. Encore.
Oui, d'abord, dans toutes nos bibliothèques, il y a des livres qu'on n'a pas lus.
Et tant mieux.
Qui respirent comme ça. Mais je me dis toujours d'ailleurs que ces livres, il les destinait à d'autres, par exemple à ses enfants, à ma sœur, à mon frère, à moi. Vous savez, c'est une belle phrase de Valéry qui dit « Je travaille pour quelqu'un qui vient après ». Et j'ai eu l'impression que mon père avait travaillé pour quelqu'un qui venait après, et que j'avais en quelque sorte ce devoir de lire ses livres et de raccommoder un peu le monde en essayant de rendre cette catastrophe qui était la grande question de leur vie, de rendre cette catastrophe intelligible en faisant ce travail de thèse de sociaux.
Oui, avec ce travail de thèse, bon, les livres sont à la maison pour certains, mais ça ne suffit pas. Évidemment, il faut sortir et pourquoi pas aller voir des dominicains.
La bibliothèque comme mémoire de l'Église. Sur cette phrase que nous lui rapportions, le père Chenu, théologien et historien, a voulu faire une mise au point.
Premier temps, la mémoire, sa valeur, la bibliothèque, etc. Oui. Mais Moi, je dirais, mais ça ne suffit pas. Hein. Il faut que ça soit vivant, et c'est la parole aujourd'hui.
Alors, parlez-nous de la mémoire.
Et à la limite, je laisse les bouquins derrière et je cours en avant. Hein. Et c'est là que vous m'objectez, mais non, il faut retourner, au contraire, puisque c'est clos. Mon magasin est fermé à partir de la mort du dernier apôtre. Il faut que je retourne là. Je dirais, non, il ne faut pas retourner là. Hein, parce que le dynamisme de l'histoire me mène en avant. J'ai noté ça.
J'ai noté ça, il a eu une idée, il va la noter en 1976.
Ouais, j'aime beaucoup les Dominicains, j'ai beaucoup travaillé avec eux, grâce à eux. Et notamment, j'ai travaillé dans une bibliothèque merveilleuse à Paris qui s'appelle Le Saulchoir, qui héberge des trésors en matière donc de théologie chrétienne, puisque lorsque vous travaillez sur l'antisémitisme, le paradoxe, c'est que vous travaillez sur des textes qui, principalement, ne sont pas des textes juifs, ce qui, du coup, vous pose plein de problèmes, parce que à cette époque-là, les études juives considèrent que l'antisémitisme, c'est pas chez eux, c'est ailleurs. Et évidemment, je suis entré là-dedans en autodidacte, j'en suis peut-être sorti d'ailleurs en autodidacte également, puisque je n'avais pas de connaissances particulières, comme vous pouvez l'imaginer, en théologie chrétienne, et il m'a fallu lire un certain nombre d'auteurs, comme le père de Lubac, pour essayer de comprendre comment c'était construit la religion chrétienne, et j'ai eu un déclic à la fois en lisant le judaïsme antique de Max Weber, qui est pour moi un texte fondateur, et en lisant et en relisant Le désenchantement du monde de Marcel Gauchet, où j'ai réussi à comprendre, ou en tout cas à me faire une représentation de ce qu'avait été le christianisme, c'est-à-dire cette manière de donner une incarnation à la religion et de donner comme incarnation à cette religion un juif, c'est-à-dire à la fois une intercession fait homme parce que le Dieu est tellement incommensurable qu'il faut que celui-ci soit médié, et choisir le visage d'une victime, ce qui est quelque chose là aussi de vertigineux. Nous vivons dans une société où finalement la base de la pyramide est quelqu'un qui a été supplicié. Peu de sociétés peuvent en dire autant.
Avec ce contraste insaisissant entre les lectures, Guillaume Herner, au moment de rédiger votre thèse, vous réfléchissez, on vous entend là maintenant, et puis le retour à la maison, discuter avec les parents, la famille, c'est-à-dire dans cette longue histoire de l'antisémitisme qui nous conduit dans l'Antiquité, toute cette réflexion par rapport au christianisme, et puis le concret des vivants, et dans Judéo-Obsession, vous avez cette formule, hein, c'est... Ces survivants, enfin, vous êtes plutôt entouré de morts.
Parce que, si vous voulez, ces interrogations, pour moi, elles étaient tout sauf conceptuelles, puisque j'entends encore la voix de ma grand-mère qui était une dame simple, évidemment, qui avait vu son monde s'engloutir. Parce qu'il faut s'imaginer ce que ça signifie pour cette génération-là. C'est-à-dire, songez par exemple que mon grand-père avait 9 frères et sœurs. En 1945, il était le seul survivant. Donc comment vous représentez-vous le monde dans cette situation-là? Et ma grand-mère me disait pourquoi. Pourquoi ont-ils fait ça? Et au début, j'essayais de répondre. Et ensuite, progressivement, j'ai compris qu'en fait, c'était une question qui n'avait pas de réponse. Et d'ailleurs, on le dit souvent en sociologie, on dit les questions du pourquoi, elles ne sont pas sociologiques, car ce sont des questions métaphysiques. Nous, on ne peut répondre qu'aux questions du comment. Mais j'ai quand même tenté d'expliquer comment l'antisémitisme s'était diffusé et pourquoi il perdurait. C'est-à-dire essayer de percer sans faire justement de métaphysique, parce que les Juifs incitent à la métaphysique, et c'est leur drame. Renan évoquait déjà cela, cette dimension métaphysique, et je pense que justement, il ne faut pas faire de métaphysique avec la mort des Juifs, il faut faire de la sociologie, il faut faire de l'histoire, chacun dans sa discipline, c'est-à-dire essayer de reconstruire les logiques à l'œuvre, surtout si un phénomène vous paraît relever de l'irrationnel. Et c'est cela, en fait, l'enjeu de la sociologie, et notamment de la sociologie weberienne, c'est prendre des phénomènes qui relèvent du miraculeux, du merveilleux, et les prendre au sérieux, sans considérer que les gens sont des personnes rêveuses, religieuses, délirantes. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que si vous considérez qu'un phénomène est irrationnel, vous remplacez quelque chose d'inexpliqué par quelque chose d'inexplicable. C'est-à-dire qu'ensuite, il faut expliquer pourquoi des esprits, qui parfois sont parfaitement logiques, cessent de l'être sur certains thèmes. Et c'est la raison pour laquelle cette croyance, cette méthode, en la rationalité, elle doit être tenue jusqu'au bout.
Oui, c'est ça, hein, parce que il y a l'objet d'études historiques autour des miracles, et bien ça participe un peu de cette même démarche, appliquer une discipline scientifique à un objet, et puis ce retour à l'individu, parce que il y a de ça qui est extrêmement troublant, et d'ailleurs dans Judéo-Obsession, quand on vous lit, il y a ce va-et-vient constant, hein, entre ces réflexions qu'on entend là, et puis ce témoignage, on peut le dire ainsi, ou en tout cas, vous êtes passeur de témoignages à travers la parole de vos proches. Et c'est à nous troupes, parce que là aussi, on est sur une certaine temporalité. Et Guillaume, quand vous évoquez ce qu'a connu votre mère et votre tante au moment de la guerre, avec ce qu'il en est aujourd'hui, et ces liens indéfectibles, c'est-à-dire que ces deux femmes ne peuvent pas vivre aujourd'hui sans penser à ce qui s'est passé par le passé, pensée consciente ou inconsciente.
Oui, j'ai choisi de raconter ça aussi parce que quand j'étais petit, comme vous, j'imagine, Xavier, on me racontait des histoires le soir avant de m'endormir, sauf que ces histoires, elles me faisaient cauchemarder parce qu'on me racontait la manière dont ma mère et ma tante ont passé, par exemple, la ligne de démarcation. Donc, songez à cette histoire, je la raconte, ce sont deux petite fille, 10 et 5 ans, ma mère était la plus grande et un passeur les a emmenés dans une forêt. Et ma tante, car ma mère n'a plus sa raison, ma tante m'en parle encore. Elle me dit à quel point le passage de cette forêt fut difficile parce qu'il y avait une femme qui les accompagnait, donc dans ce groupe avec le passeur, qui avait des talons, qui avait du mal à marcher. Et puis, c'était deux citadines. Elles habitaient Clichy. Elles n'avaient jamais vu véritablement ce qu'était une forêt. Une forêt la nuit, il y a beaucoup de bruit. Et cette atmosphère, j'ai essayé de la retranscrire dans Judéo-Obsession comme ces femmes me l'avaient raconté lorsque j'étais petit. Et c'est de cette façon-là, effectivement, que j'ai forgé à la fois un amour pour la forêt, un amour pour un certain nombre d'objets, mais aussi une manière de considérer que l'horreur est ce qui m'entoure de manière naturelle. C'est-à-dire que, bon, vous êtes un spécialiste de Napoléon, moi je suis un spécialiste de l'atroce. Et dans les informations, souvent on me dit « mais comment tu fais pour supporter ça ?» Et je me dis qu'hélas, de par mon enfance, j'ai été habitué à vivre dans des environnements où l'on parlait de choses atroces. Et c'est pourquoi je me sens bien dans un certain nombre d'endroits où je ne devrais pas me sentir bien. Quand j'ai rejoint, par exemple, Charlie Hebdo, c'était juste après la tuerie. L'atmosphère était absolument irrespirable. C'était quelque chose de complètement inhumain. Et je me disais que j'étais à l'aise parce que c'est quelque chose qui me rappelait mes grands-parents, c'est-à-dire un endroit où on parle de gens qui sont morts. C'était quelque chose de parfaitement logique pour moi d'y être, alors même que la situation était complètement aberrante. À l'époque, Charlie était à Libération, il y avait des policiers qui nous entouraient, mais je veux dire de manière très proche, avec des fusils mitrailleurs, ça n'avait rien de quelque chose de normal.
Ouais, c'est ce paradoxe, mais constant, hein, on le sent depuis que nous parlons, Guillaume, avec ces chrétiens qui ne veulent plus des juifs, mais qui ne peuvent pas s'en passer, avec cette horreur dans laquelle il y a toujours, malgré tout, de l'humour. On le voit quand vous racontez les conversations à table sur les souvenirs qui sont terrifiants, et de l'amour. Je lis quelques mots. Vous avez parlé de votre tante, de votre maman, hein, et en 1943, elles ont passé la ligne de démarcation. Et aujourd'hui, vous écrivez « Je n'ai jamais vu autant d'amour dans une si petite pièce. Le thé fumant, la télé qui hurle, mais on restera ensemble, comme en 1943. Nous sommes habitués. » C'est terrible ce mot, hein.
Oui, et ma mère et ma tante n'ont jamais pu se quitter. Elles n'ont jamais pu se quitter, elles ont passé la ligne de démarcation ensemble, elles ont également fui, elles étaient cachées chez les sœurs. Elles étaient cachées chez les sœurs en Corrèze pendant la guerre, les sœurs qui ont été immensément bonnes pour elles. Et ses sœurs savaient pertinemment qu'elles étaient juives, il y avait aucune ambiguïté là-dessus. Et une nuit, ma mère a entendu la cuisinière, qui était juive aussi, dire que la Gestapo allait venir. Et ma mère, donc, je répète, elle avait 10 ans à l'époque, s'est dit que il fallait fuir. Il fallait fuir, et pour aller où? Alors elle avait entendu un nom, la ferme des Bargeaux. Et elle a pris sa petite sœur sous le bras, et elle s'est enfuie à nouveau dans la forêt sans savoir où aller, parce qu'en fait, elle ne savait pas du tout où était cette ferme des Bargeaux. Et là, elles ont rencontré un homme. Vous savez, c'est une figure de Jean Valjean. Je pense que c'est pour ça aussi que j'aime autant Les Misérables. Et cet homme leur a dit « Vous êtes les petites juives, où est-ce que vous allez ?» Et ma mère lui a dit « Voilà, nous allons à la ferme des Bargeaux. » Et il les a conduits à cette ferme où elles ont été recueillies. Et ça aussi, c'est quelque chose d'inouï parce que c'est la confrontation des extrêmes. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a ces gens qui ont été des justes, il y a les autres, Xavier, et c'est quelque chose qui m'a constitué dans ma manière de voir le monde.
Mais vraiment, cette construction d'un univers, alors, il y a les personnes qui ont vécu ces horreurs, et puis après, il y a, comme vous, Guillaume, hein, les gens qui sont dans cette histoire-là. Et on ne peut pas s'en défaire, même sans avoir vécu directement l'horreur. On est héritier de tout cela, en écho à tout ce que nous disons. Et là aussi, dans le contraste, parce qu'on ne s'y attend pas, mais il suffit d'écouter Régine chanter La rue des Rosiers.
Rue des Rosiers, quelle est la chose, quelle est la rose que vous disiez? Ce que j'ai dit ce samedi, j'ai dit, Régine, c'est mon épine, un vieux piano plein de moineaux, un air de ciel dans ma ruelle, tout un envol près de Saint-Paul. Ce que j'ai dit ce samedi, j'ai dit, je t'aime, c'est mon poème. Il sera là toujours ce souvenir d'enfance, ce quartier de Saint-Paul et sa rue des Rosiers, et le fils du rabbin chapeauté d'importance qui me donnait la main et qui n'a pas osé. Rue des Rosiers, quelle est la chose, quelle est la rose que vous cousiez? Je couds des fleurs et puis des fleurs et des dentelles pour être belle. Des fleurs de mai, mon mal-aimé, je couds des merles aux yeux de perles et les sanglots des vieux charlots. Je couds des sous, puis les découds. Je couds, je l'aime, c'est mon poème. Il flottera toujours au fond de ma mémoire, ce joli voile blanc d'un mariage d'enfant, avec un petit juif en redingote noire, qui me donnait la main et qui a fichu le camp. Qui me donnait la main et qui a fichu le camp. La 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 la.
Rue des Rosiers par Régine dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Camille Mathy avec aujourd'hui la technique Jean-Guilain Meige. Régine, c'est pas simplement la grande Zoa, même si on l'adore en grande Zoa. Régine, c'est dans cette chanson son histoire qu'elle raconte.
Hein. Ouais, c'était un enfant caché, Régine. Et ça aussi, c'est l'un des grands paradoxes de l'histoire juive au XXe siècle. Enfant caché, donc vous imaginez un enfant qui a peur de mourir, Anne Frank. Je pense aussi aux enfants de Gaza qui ont pu ressentir ça. Et je pense aussi aux otages israéliens, notamment aux enfants otages. Et Régine, il y a quelque chose d'inouï chez cette femme qui a vécu les choses les plus dures et qui a incarné la légèreté. Et cela me renvoie justement à ce milieu dans lequel je suis né, où tous avaient des histoires d'une gravité absolue et il travaillait dans la mode, dans les rubans, et dans la fantaisie, dans quelque chose de parfaitement accessoire. Et il y avait une sorte de paradoxe que je n'ai jamais pu résoudre, qu'on ne peut pas résoudre d'ailleurs, entre l'immense légèreté du métier qu'ils faisaient et l'absolue gravité de ce qu'avait été leur existence.
Pourquoi les coiffeurs ?
Pourquoi les juifs? Pourquoi les coiffeurs? C'est une vieille blague juive, on dit interdit aux juifs et aux coiffeurs, et quelqu'un dit mais pourquoi les coiffeurs? Et c'est la question à laquelle j'ai essayé de répondre dans ma thèse, j'ai essayé de comprendre finalement pourquoi, après les différentes métamorphoses de l'antijudaïsme, de l'antisémitisme, puisque le terme d'antisémitisme est un terme très compliqué, si vous voulez, sur deux millénaires, et on ne peut pas parler d'une même haine, il faut évidemment catégoriser les choses et utiliser d'autres termes, faute de quoi le concept est trompeur. Et je crois que ce qui marque l'antisémitisme moderne, autrement dit l'antisémitisme hitlérien, c'est la construction d'une métaphysique. C'est-à-dire que, si vous voulez, la haine des Juifs organise le monde. Elle organise le monde hitlérien. Elle organise cette manière de considérer que le monde va mal parce qu'il y a un principe mauvais, les Juifs, et que si l'on supprime ce principe mauvais, eh bien le monde ira mieux. Et cela rejoint un certain nombre de figures théologiques, et notamment ce qu'on appelle la gnose. La gnose qui est une manière de considérer que la fin du monde est proche et que cette fin du monde, elle peut être évitée ou athée dans certains mouvements en mettant le doigt sur ce principe diabolique qu'incarnait pour la métaphysique hitlérienne les Juifs.
Le bouc émissaire, hein, on retrouve ce titre dans la thèse et puis dans Judéo-Obsession. On va retrouver cela, pourquoi cette obsession des Juifs pour les Juifs et puis de l'ensemble de la société pour les Juifs. Ça, c'est un truc qu'on constate sans arrêt. Et puis toujours ce paradoxe, parce que énormément d'humour, parce que l'humour juif, on l'a évoqué avec les coiffeurs, c'est le titre d'un chapitre, hein, de votre ouvrage, Guillaume Herner, et vous avez des formules d'une efficacité redoutable. Enfin, les chrétiens ont la confession, enfin, les catholiques ont la confession, et les Juifs ont
la confection. La confection, nous avons la confection puisque effectivement, je suis né dans ce milieu et suite à, vous savez, dans la vie, on fait pas ce qu'on veut. Vous avez commencé par faire de l'histoire. Vous êtes venu au journalisme.
J'ai toujours fait de l'histoire, oui, c'est vrai.
Oui, mais vous êtes historien et journaliste
voilà,
maintenant.
Voilà, c'est ça.
Et moi, j'ai toujours voulu être journaliste, probablement pour faire ce que mon père n'avait pas voulu faire et ça n'a pas été facile pour moi d'arriver au journalisme. C'est pourquoi d'ailleurs chaque jour où je suis au micro avec vous, je bénis ce jour. Et donc j'ai travaillé pendant 13 ans au Sentier, avec certains jours agréables, certains jours qui l'étaient moins. Et puis un sentiment que j'étais très éloigné de la vie que je voulais mener, c'est-à-dire une vie de journaliste. Et donc j'en avais vraiment conçu l'idée qu'un juif, idée folle, hein, mais on n'est pas obligé d'avoir des idées qui sont toujours exactes, qu'un juif ne pouvait faire que ça, Xavier.
Ouais, c'est ça, parce que moi j'aime beaucoup cette idée d'imaginer Guillaume Herner dans le Sentier, c'est vrai, ce monde de la confection, et d'ailleurs on va faire un petit tour dans ce centre de Paris, le Marais, le Sentier.
Traçons pour commencer les frontières du Marais. Ses contours sont précis, vous longez la Seine en partant du quai Henri IV jusqu'à la place du Châtelet, puis vous prenez le boulevard Sébastopol que vous suivez, et puis le boulevard Saint-Martin, vous tournez là, jusqu'à la République. Vous redescendez le boulevard du Temple et celui des Filles du Calvaire, puis le boulevard Beaumarchais jusqu'à la place de la Bastille. Enfin le boulevard Bourdon, jusqu'à votre point de départ. Alors, vous avez cerné 10 siècles d'histoire.
Petite balade dans le Marais en 1969, vous aviez toujours un an, Guillaume.
C'est mon monde, je suis né dans le Marais, c'est un quartier que je n'ai pas quitté, je n'arrive pas d'ailleurs à le quitter. Alors je l'ai vu évoluer, puisque maintenant le Marais, surtout en ce moment, c'est une fashion week permanente, alors qu'avant c'était un quartier, en tout cas le temps de ma jeunesse, donnait à voir un quartier extrêmement populaire, très mélangé. Vous savez, on était évidemment après le classement par Malraux du quartier, mais néanmoins, ce quartier n'avait pas été entièrement rénové. Il y avait encore beaucoup de cours obscures, il y avait encore énormément d'immeubles délabrés, et j'ai toujours été extrêmement attaché à ces lieux, qui sont des lieux avec des vivants et beaucoup de morts. Alors maintenant, il y a ces plaques sur chaque école. Vous voyez, par exemple, hier, j'étais du côté de la rue de l'Ave Maria, il y a une école primaire avec cette plaque pour dire combien donc de petits écoliers ont été raflés. Et je crois que cette école est l'école où il y a eu le plus d'enfants déportés. Voilà, c'est pour ça que à chaque fois que je marche dans ces rues, je me dis que je suis aussi cerné par ces fantômes.
Et nous évoquons des lieux aujourd'hui avec vous, Guillaume, autour de Judéo-Obsession. Et parmi ces lieux, bien sûr, il y a Israël, avec l'idée du départ.
Oui, alors, l'idée du départ est une idée que je crois, c'est une constatation empirique, mais je la soutiens. Je pense que depuis, disons, depuis l'attentat contre l'école aux Arts à Torah à Toulouse, depuis 2012 donc, aucun juif ne se sent aujourd'hui à l'abri en France. Et ça, c'est quelque chose de très important. J'ai un cousin qui était un juif professionnel, vous savez, avec le chapeau, etc. Il ressemblait à Rabbi Jacob. Il est parti en Israël parce que il ne pouvait pas vivre tranquillement en France. Alors, il n'était pas menacé de mort, mais il était chahuté. Il avait peur pour ses enfants. Moi, quand mon fils va au Talmud Torah, j'ai peur. Je ne suis pas content. Et je ne suis pas content d'avoir peur aussi, bien sûr. Et ça, je pense que ce n'est pas normal. D'après ce que j'ai compris, il est impossible aujourd'hui pour un jeune juif d'être scolarisé dans le 9-3. Je pense que c'est insupportable. Je pense que c'est inimaginable qu'on en soit arrivé là. Et pour toutes ces raisons, eh bien, je pense que les juifs ne se sentent pas aujourd'hui à l'aise en France, alors même qu'il y a des juifs depuis bien longtemps, avant même que la France soit France. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important, Xavier, parce que vous qui faites de l'histoire, l'histoire juive est, comme le dit Paul Salmona, une tache aveugle sur la rétine nationale. Et si c'est une tache aveugle, cela signifie qu'on peut entendre des phrases comme par exemple « Eh bien, les Juifs vont rentrer chez eux si ça se passe mal ». Mais non, ils ne vont pas rentrer chez eux, puisqu'en fait, ils sont chez eux en France et ils le sont depuis bien longtemps. La religion juive est une religion qui existe dans des synagogues, dans le comtat vénétien, qui existe dans des cimetières à Apt, qui existe à Rouen. On a retrouvé des vestiges de la vie juive qui existent à Troyes avec Rachi. Rachi a été le plus grand sage du judaïsme. Il écrivait en français. Qui le sait? Qui le dit? Il faut le dire.
Oui, c'est vrai, un rabbi au Xe siècle, le rabbin Vigneron, c'est une grande figure aujourd'hui dans le monde entier des études hébraïques.
C'est probablement le principal sage du judaïsme. C'est un peu l'équivalent de saint Thomas d'Aquin pour le judaïsme. Il était français. Il était français, on devrait s'en glorifier, les Français devraient s'en glorifier, alors qu'il est quasiment inconnu.
Ouais, c'est vraiment cela qui est toujours perturbant dans cette histoire-là, c'est sa complexité. Mais sans cette complexité, il n'y aurait pas cette histoire avec, dans ces différents lieux que nous évoquons, Guillaume, un départ, bien sûr. Oh, pas si loin que ça, en fait, c'est tout simplement dans la Drôme.
Bonjour. Notre magazine touristique et culturel est aujourd'hui à Valréas, dans une partie du département de Vaucluse, enclavée dans la Drôme. Curieuse situation administrative dont on vous donnera les raisons historiques au cours de cette émission. Mais si le département de la Drôme sur la carte semble porter l'enclave de Vaucluse comme une mère son enfant dans son sein, il n'en est pas exactement de même dans les faits. En effet, vauclusienne et provençale avant tout, l'enclave forte de 4 communes, dont une capitale qui est la ville la plus importante de la région, n'a pas d'effort à faire pour avoir comme pôle d'attraction Avignon, sa préfecture, et ne se déclare parfois autonomiste que par plaisanterie fondée sur cette particularité de la carte politique. Le paysage est provençal, comme celui du Tricastin, surtout caractérisé par les chênes verts et les pins. Le maquis aussi, d'ailleurs, dans les collines désertiques du sud-est, un parfait décor de western. Mais l'enclave a ses richesses, qui sont pour l'agriculture, le vin et la truffe, et une industrie florissante. Richesses auxquelles s'ajoute aujourd'hui celle apportée par le tourisme. Nous sommes là pour en parler.
Bah, nous n'allons pas parler de tourisme.
Ah, mais alors, 1973, attention, hein, alors, en plus, attention, parce que ça, c'est pas du tout chez moi. Ça, c'est la Drôme du Sud. Et moi, je suis du nord, de la vallée de la Drôme. C'est-à-dire pas du tout la Drôme provençale. Et c'est effectivement un lieu que nous avons investi avec ma famille. Donc, du côté de Cray, qui est pour moi le plus bel endroit du monde. C'est un endroit qui me permet de me sentir enfin français, puisque j'ai une ferme. Alors bon, je suis pas capable de savoir dans quel sens il faut tenir une bêche, mais bon, j'imagine que voilà, je pourrais me rêver tel. Et comme je le raconte dans mon livre, lorsque nous sommes arrivés là-bas, je me suis rendu compte qu'il y avait à droite une forêt, et que cette forêt appartenait à Crémieux, le Crémieux du décret Crémieux, et à gauche une synagogue du XIVe. Alors, on ne sait pas vraiment si elle est identifiée. Bon, j'ai emmené mon rabbin Paul Salmona là-bas. Il n'a pas été capable de me dire si c'était véritablement une synagogue, mais en tout cas, c'est comme ça que la présentent les habitants du lieu, pour vous dire justement, Xavier, à quel point l'histoire juive est présente dans l'histoire de nos territoires, y compris dans les coins les plus humbles, puisqu'il ne s'agit pas de Rouen, il ne s'agit pas de Troyes, qui étaient des mégapoles. Et c'est ça, en fait, qui me rend particulièrement ému à l'évocation donc de cette histoire.
Oui, et puis la Drôme, on voit que c'est très important dans cette histoire judéo-obsession, judéo-obsession en un seul mot, hein, comme ça, si on cherche le titre de l'ouvrage, Guillaume Herner, avec, pour évoquer une dernière fois la complexité de cette histoire, une couverture. Oh, elle est tout en couleur, cette couverture. Hein. Il y a un bandeau rouge, tant qu'il y aura des antisémites, je dirais que je suis juif. Et puis, il y a les couleurs d'un tableau. Quand on regarde comme ça, on ne voit pas ce que c'est. Et puis, on s'approche et on comprend. Vous pouvez nous dire en deux mots ce que ça représente?
En fait, il y a... Donc, c'est un tableau de mon oncle, Dov Horner, qui malheureusement nous a quittés il y a quelques mois. Dov Horner était l'un des fondateurs de l'État d'Israël. Je veux dire, il appartenait à la génération des pionniers. Et cet homme qui a perdu ses parents dans la Shoah n'a peint que sur Hitler et la Shoah. Et on y voit donc l'inscription qui est sur le devant de la grille d'Auschwitz, cette tristement célèbre expression « Arbeit, mein Frei », avec des jambes de femmes et avec des petits Hitler qui sont dessinés de manière enfantine. Et pour moi, cet homme, Dov, incarne la judéo-obsession, c'est-à-dire qu'il a consacré toute son œuvre d'artiste à évoquer la Shoah, évoquer Hitler, évoquer la manière dont tout cela remuait sa mémoire de manière obsessionnelle. Et lorsque j'ai présenté cette image à mon équipe, celle avec laquelle je travaille au matin, on m'a dit « mais tu peux pas mettre ça parce qu'il y a eu des jambes de femmes ». Et effectivement, c'est un tableau très troublant. Et je leur ai dit « mais c'est justement parce qu'il y a des jambes de femmes ». Et j'assume, si vous voulez, dans judéo-obsession, le mot « obsession » renvoie aussi à des obsessions sexuelles. Bien sûr que c'est sexuel, bien sûr que le mot « juif » participe des zones érogènes aujourd'hui du social et qu'il y a une trouble attirance vers ce mot de la même façon qu'il y a, c'est Freud qui nous a expliqué ça, qu'il pouvait y avoir des choses troubles dans la pulsion sexuelle.
Judéo-obsession, Guillaume, c'est la vôtre, c'est la nôtre, hein. Obsession à tous. Non mais il y a qu'à voir l'actualité avec tant d'évocations autour des juifs, les questions autour de ces gens. Et en fait, quand on vous lit, Guillaume, on saisit comment vous construisez votre histoire et dans le même temps, on en apprend sur cette histoire de l'antisémitisme. Guillaume, Judéo-obsession, c'est chez Flammarion. Je vous le dis parce que c'est honnête, ça se lit bien et moi je suis très sensible à ça.
Merci mille fois de m'avoir reçu. Je vais rester chez vous, c'est bien chez vous.
Restez, bah, je vous laisse les clés, vous serez là lundi matin.
Si Dieu veut, je serai là lundi matin.
Allez Guillaume, pour vous faire plaisir, par un petit tour dans la Drôme.
À l'instar de l'Ardèche, la Drôme est un département très diversifié, différencié. Quand le Nord touche aux Alpes du Vercors et en subit le climat, le Sud épouse la face septentrionale du Ventoux, porte du soleil. Il n'en reste pas moins que la Drôme est un département d'union dans le sillon rhodanien entre les pays de Loire et la Méditerranée. Et l'histoire y a planté ses campements par ses routes des princes d'Orange et d'Hannibal depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Trop vite traversée sur sa lisière par l'autoroute du Midi, la Drôme est un département qui ne se laisse pas encore gagner par trop de tourisme, et c'est pourquoi il reste encore, pour celui qui sait musarder, beaucoup de routes buissonnières à découvrir et d'endroits pittoresques où résider.
L'histoire aussi, c'est ça. Ce sont des routes buissonnières. Le cours de l'histoire, une émission préparée par Mayouen Guizhou, Jeanne Delecroix, Jeanne Copé-Raphaël Laloum, Chloé Rouillon. Ah, Chloé Rouillon, qui a tant œuvré dans le cours de l'histoire durant son stage. Et merci beaucoup à Joséphine Reinhardt, à Anne Toscan-Viudès et à Tom Undenstock. Le cours de l'histoire, trouvez à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.